Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du dimanche après-midi de la 188e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la dernière session de la 188e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Russell M. Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et aux amis de partout qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par le Mormon Tabernacle Choir sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy, avec Richard Elliott et Brian Mathias à l'orgue. Le chœur ouvrira cette session en chantant brillamment l'amour du Père, le numéro 151 dans le recueil de cantiques français. Ensuite, Elder Weatherford Clayton des 70 fera la prière d'ouverture, puis le chœur chantera « Ô berger, elles sont chères », numéro 142 dans le recueil de cantiques français.
Notre cher Père Céleste, nous sommes si reconnaissants de nous trouver dans ce bâtiment, à côté de la maison du Seigneur, pour entendre ta parole venant d'apôtres et de prophètes. Nous te remercions de la bénédiction d'un prophète vivant qui nous a enseigné à rechercher et recevoir la révélation. Nous sommes à nouveau assemblés et demandons que ton esprit repose sur nous pour que nous puissions entendre puis agir sur ce que nous recevrons. Nous te demandons humblement bénir ceux qui vont nous adresser la parole pour qu'ils aient la bénédiction d'avoir ton esprit et nous enseignent par la puissance de ton esprit afin que nous soyons édifiés ensemble et comprenions ce que nous devons faire. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui attendent de recevoir ton aide, ta tendresse pour pouvoir aller de l'avant, pour être dirigé par ces prophètes et apôtres qui nous dirigent vers ton Fils. Que ton Esprit nous bénisse aujourd'hui en entendant ces paroles au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dear to God.
Nous aurons à présent le plaisir d'entendre Elder Gerrit W. Gong et Ulysses Soares, qui ont été soutenus hier matin comme nouveaux membres du Collège des 12 apôtres. Puis nous écouterons quelques paroles du président Nelson. Elder Jeffrey R. Holland, du Collège des 12 apôtres, et Sœur Jean Bingham, présidente générale de la Société de secours, nous adresseront ensuite la parole. Elder Gong.
Chers frères et sœurs, quand nos fils étaient tout petits, au moment du coucher, je leur racontais des histoires de chiots Beagle et je leur fredonnais des berceuses, entre autres « Le Christ est ressuscité ». Parfois, je m'amusais à changer les paroles en « Maintenant, il faut dormir ». Alléluia! En général, nos fils s'endormaient vite, ou tout du moins, ils savaient que si je pensais qu'ils étaient endormis, je m'arrêterais de chanter. Les paroles, les miennes en tout cas, ne peuvent exprimer combien je suis bouleversé depuis que le président Nelson m'a pris les mains en présence de Suzanne et m'a présenté cet appel sacré venant du Seigneur qui m'a laissé sans le souffle. J'ai pleuré souvent au cours de ces derniers jours. En ce matin de sabbat, je chante joyeusement Alléluia. Le chant de l'amour rédempteur de notre Sauveur ressuscité célèbre l'harmonie des alliances qui nous unissent à Dieu et les uns aux autres et l'expiation de Jésus-Christ qui nous aide à nous dépouiller de l'homme et de la femme naturelle et à céder aux persuasions du Saint-Esprit. Ensemble, nos alliances et l'expiation de notre Sauveur nous donnent du pouvoir et nous ennoblissent. Ensemble, elles nous aident à préserver, elles nous aident à persévérer et à lâcher prise. Ensemble, elles nous adoucissent, nous préservent, nous sanctifient et nous rachètent. Joseph Smith, le prophète, a dit « Certains pourront avoir l'impression que cette doctrine dont nous parlons est très hardie. Un pouvoir qui enregistre ou lit sur la terre et lit dans les cieux. Néanmoins, à toutes les époques du monde, toutes les fois que le Seigneur a donné à un homme ou à un groupe d'hommes une dispensation de la prêtrise par révélation directe, ce pouvoir a toujours été donné. Et il en est ainsi aujourd'hui. Des alliances et des ordonnances sacrées disponibles nulle part ailleurs, sont reçus dans 159 saintes maisons du Seigneur dans 43 pays. Des bénédictions promises s'obtiennent par le truchement de clés, de la doctrine et de l'autorité rétablie de la prêtrise qui reflète notre foi, notre obéissance et les promesses que nous fait son Saint-Esprit dans nos générations, dans le temps et l'éternité. Chers frères et sœurs de toutes nations, races et langues de notre Église mondiale, merci de la foi, de l'espérance et de la charité vivante que vous manifestez à chaque pas. Merci de vos efforts pour devenir une assemblée imprégnée de témoignages de l'Évangile rétabli. Mes chers frères et sœurs, nous nous appartenons les uns aux autres. Nous pouvons être enlacés dans l'unité et l'amour, en toutes choses et dans tous les lieux. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous y invite, venez et voyez. Aujourd'hui, je m'engage humblement à consacrer toute mon énergie et mes facultés, quelles qu'elles soient ou puissent devenir, à mon Sauveur, à ma chère Suzanne et nos enfants, à mes frères et à chacun de vous, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout ce qui est bon et éternel est basé sur la vivante réalité de Dieu, notre Père éternel aimant, et de son Fils, Jésus-Christ, et son expiation dont le Saint-Esprit témoigne. En ce dimanche de Pâques, je témoigne respectueusement et solennellement que le Christ vit. Lui qui est mort a été enseveli et ressuscité le troisième jour et est monté au ciel. Il est l'alpha et l'oméga, avec nous au commencement Il est avec nous jusqu'à la fin. Je rends témoignage des prophètes des derniers jours, de Joseph Smith à Russell Nelson, que nous soutenons avec joie. Comme nos enfants de la primaire le chantent, suis les prophètes, car ils sauront toujours te guider. Je témoigne que, comme cela est prophétisé dans les Saintes Écritures, dont le Livre de Mormon, le royaume du Seigneur a été rétabli sur la terre en préparation de la seconde venue du Messie. Au nom sacré de Jésus-Christ, amen.
Mes chers frères et sœurs, où que vous soyez, je vous exprime mes remerciements sincères et profonds pour votre vote de soutien hier. Bien que je me sente sans éloquence et que, comme Moïse, je n'ai pas la parole facile, je trouve du réconfort dans les paroles que le Seigneur lui a adressées. Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc. Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Je puise aussi de la consolation dans l'amour et le soutien de ma chère femme. Elle est un exemple de bonté, d'amour et de dévouement total au Seigneur pour moi et mes enfants. Je l'aime de toutes les fibres de mon cœur et je suis reconnaissant de l'influence bénéfique qu'elle a eue sur nous. Mes frères et sœurs, je vous témoigne que le président Nelson est le prophète de Dieu sur la terre. Je ne connais pas d'homme plus gentil et aimant que lui. Bien que je me sente inapte à remplir cet appel sacré, ses paroles et la tendresse de son regard quand il m'a confié cette responsabilité m'ont donné l'impression d'être enveloppé de l'amour du Sauveur. Merci beaucoup, Président Nelson. Je vous soutiens et je vous aime. N'est-ce pas une bénédiction que d'avoir sur la terre à notre époque des prophètes, des voyants et des révélateurs qui cherchent à connaître la volonté du Seigneur et à la faire? Il est réconfortant de savoir que nous ne sommes pas seuls au monde malgré les difficultés que nous rencontrons. La présence de prophètes est un signe de l'amour de Dieu pour ses enfants. Ils font connaître les promesses et la véritable nature de Dieu et de Jésus-Christ à leur peuple. Je l'ai appris par expérience personnelle. Il y a 18 ans, ma femme et moi avons reçu un coup de téléphone de James E. Faust, alors deuxième conseiller dans la première présidence. Il nous a appelés à servir comme président de mission au Portugal. Il nous a dit que nous n'avions que 6 semaines avant le début de la mission. Bien que nous sentant mal préparés et inaptes, nous avons accepté l'appel. Ce qui nous préoccupait le plus à ce moment-là, c'était d'obtenir les visas requis pour servir dans ce pays, car, par expérience, nous savions que cela pouvait prendre de 6 à 8 mois. Le président Faust nous a alors demandé si nous avions la foi que le Seigneur opérerait un miracle et nous permettrait de régler le problème des visas plus vite. Nous avons répondu par un oui franc et nous avons commencé immédiatement les démarches. Nous avons préparé les documents requis pour les visas et, avec nos jeunes enfants, sommes allés au plus vite au consulat. Nous avons été reçus par une dame très aimable, tandis qu'elle examinait nos papiers et apprenait ce que nous allions faire au Portugal, elle nous a demandé « Vous allez vraiment aider les habitants de mon pays ?» Nous avons répondu par un oui catégorique et lui avons expliqué que nous représenterions Jésus-Christ et témoignerons de sa mission divine dans le monde. Nous sommes revenus 4 semaines plus tard, avons reçu nos visas et sommes arrivés dans le champ de la mission de notre mission dans les 6 semaines, comme un prophète du Seigneur nous l'avait demandé. Mes frères et sœurs, je témoigne que les prophètes parlent par le pouvoir du Saint-Esprit. Ils rendent témoignage du Christ et de sa mission divine sur la terre. Ils expriment la volonté du Seigneur et sont appelés à le représenter et à nous enseigner ce que nous devons faire pour retourner vivre en la présence de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Nous sommes bénis quand nous exerçons notre foi et suivons leur enseignement. Si nous les suivons, notre vie est plus heureuse et moins compliquée. Nos difficultés sont plus faciles à supporter et nous nous entourons d'une armure spirituelle qui nous protégera des attaques de l'ennemi à notre époque. En ce jour de Pâques, je témoigne solennellement que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il vit et qu'il dirige son Église sur la terre par l'intermédiaire de ses prophètes, voyants et révélateurs. Je témoigne qu'il est le Sauveur et le Rédempteur du monde et que grâce à lui, nous pouvons être sauvés et exaltés dans la présence de Dieu. Je l'aime. Je l'adore. Je veux le suivre, faire sa volonté et devenir plus semblable à lui. Je dis cela humblement au nom sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Merci, Elder Gong et Suarez, pour la foi que votre cœur exprimait. Nous sommes si reconnaissants pour vous et pour vos chères épouses. Chers frères et sœurs, nous recherchons constamment les directives du Seigneur sur comment aider les membres à garder les commandements de Dieu, en particulier ces deux commandements que sont d'aimer Dieu et notre prochain. Pendant des mois, nous avons recherché une meilleure façon de servir pour répondre aux besoins temporels et spirituels de nos membres à la manière du Sauveur. Nous avons pris la décision de retirer les expressions « instruction au foyer » et « sœurs visiteuses » comme nous les avons connues. Au lieu de cela, nous allons mettre en marche une approche nouvelle, plus sainte, pour prendre soin et servir les autres. Nous nous référons à ces efforts simplement comme étant le service pastoral. Les dons innés des sœurs donnent du pouvoir à des efforts efficaces de service, ainsi que la puissance incomparable de la prêtrise. Nous avons tous besoin d'une telle protection contre les ruses de l'adversaire. Elder Jeffrey Holland du Collège des Douze Apôtres et sœur Jean Bingham, présidente générale de cette secours, vont maintenant nous expliquer comment les détenteurs de la prêtrise et les sœurs de la Sainte Secours et les jeunes filles qui sont assignées à cela fonctionneront dans ce service et dans le soin que l'on prendra des membres de l'Église à travers le monde. La première présidence et les douze sont unis dans ce message qu'ils vont présenter pour le soutenir. C'est avec reconnaissance et dans la prière que nous ouvrons ce nouveau chapitre dans l'histoire de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Pour paraphraser, Ralph Waldo Emerson, « Les moments les plus mémorables dans la vie sont ceux où nous ressentons le souffle de la révélation. » Président Nelson, je ne sais pas combien de souffles nous pouvons encore supporter ce week-end. Certains d'entre nous ont des cœurs fragiles. Mais quand j'y pense, vous pouvez gérer cela aussi. Quel prophète! Dans l'esprit des déclarations et du témoignage merveilleux du président Nelson hier soir et de ce matin, je rends mon propre témoignage que ces ajustements sont des exemples de la révélation qui guide cette Église depuis ses débuts. Ils sont une preuve de plus que le Seigneur hâte son œuvre en son temps. Pour tous ceux qui ont hâte d'en connaître les détails, sachez qu'à la fin de cette session de la conférence, une séquence commencera où une lettre de la première présidence sera envoyée à chaque membre de l'Église dont nous avons l'adresse électronique. Un document de 7 pages de questions et réponses y sera joint pour tous les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires. Enfin, ces documents sont publiés à l'instant sur ministering.lds.org. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Maintenant, la tâche merveilleuse que m'a confiée le président Nelson, frères et sœurs. Comme l'œuvre des collèges et des auxiliaires mûrit dans son organisation, il est logique que nous mûrissions personnellement, nous élevant individuellement, au-dessus de toute routine mécanique, d'agissement dénué de sentiments, pour devenir les disciples sincères que le Sauveur a demandé au terme de son ministère terrestre. Se préparant à quitter son petit groupe de disciples encore innocents et quelque peu confus, il n'a pas donné toute une liste d'étapes administratives à suivre, ni ne leur a remis un paquet de rapports à remplir en 3 exemplaires. Non, il a résumé leur mission en un commandement fondamental. Il a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Il a dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres ». Dans nos efforts pour nous rapprocher de cet idéal de l'Évangile, la nouvelle approche du service pastoral de la prêtrise et de la société de secours qui a été annoncée comporte parmi d'autres choses les éléments suivants, dont certains ont déjà été mis en place par la société de secours avec beaucoup de réussite. Nous n'utiliserons plus les appellations enseignement au foyer et visite d'enseignement. Cela est en partie dû au fait que l'essentiel de notre service pastoral se fera dans d'autres contextes que le foyer, et aussi parce que notre contact ne sera pas défini par l'enseignement de leçons préparées, bien qu'une leçon puisse être donnée en cas de besoin. Le but principal du service pastoral est, comme cela a été dit du temps d'Alma, de veiller ainsi sur le peuple et de le nourrir des choses relatives à la justice. Nous continuerons de nous rendre dans les foyers autant que possible, mais les circonstances locales, telles que le nombre de foyers, la distance, la sécurité des personnes et d'autres conditions difficiles, peuvent empêcher de visiter chaque famille chaque mois. Comme l'a conseillé la première présidence il y a des années, faites de votre mieux avec les ressources dont vous disposez. Au calendrier de visite réelle que vous établirez, peuvent s'ajouter des appels téléphoniques, des notes écrites, des SMS, des courriels, des discussions par vidéo, des conversations lors des réunions de l'Église, des projets de services communs, des activités sociales et d'innombrables possibilités dans le monde des réseaux sociaux. Cependant, je dois souligner que ce large nouvel éventail n'inclut pas le message désolant de cet autocollant que j'ai récemment vu sur un pare-choc de voiture. Il disait « Si je klaxonne, cela compte pour une visite au foyer ». De grâce, frères. Les sœurs ne seraient jamais coupables de cela. Je parle aux frères de l'Église. Par ces ajustements, nous voulons que vous vous souciez davantage des personnes, pas moins. Avec cette toute nouvelle approche du service pastoral, basée davantage sur l'Évangile, j'ai le sentiment que vous commencez à paniquer concernant les rapports. Eh bien, détendez-vous, parce qu'il n'y aura plus de rapport. Du moins, plus celui de fin de mois qu'on se dépêche de remplir in extremis. Ici aussi, nous mûrissons. Le seul rapport à faire portera sur le nombre d'entretiens que les dirigeants auront eus avec les équipes de frères et sœurs de service pastoral de la paroisse pendant le trimestre. Aussi simple qu'il y paraît, mes amis, ces entretiens sont cruciaux. Sans ces renseignements, l'évêque n'aura aucun moyen de connaître la situation spirituelle et temporelle de ses membres. N'oubliez pas, Les frères qui font le service pastoral représentent l'épiscopat et la présidence du Collège des anciens. Ils ne les remplacent pas. Les clés d'un évêque et d'un président de collège vont bien au-delà de ce programme de service pastoral. Parce que ce rapport est différent de tout ce que nous avons soumis dans le passé, il est important d'insister que nous, au siège de l'Église, n'avons pas besoin de savoir comment vous prenez contact avec les personnes. Nous nous soucions seulement que vous le fassiez et que vous soyez une bénédiction pour elles, autant que possible. Frères et sœurs, nous avons ici une occasion en tant qu'Église entière de montrer une religion pure et sans tache devant Dieu, de supporter les fardeaux les uns des autres, qu'ils puissent être légers, de réconforter ceux qui ont besoin de réconfort et de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, des personnes mariées et célibataires, fortes et désemparées, opprimées et robustes, heureuses et tristes, en bref, de nous tous, de chacun de nous, parce que nous avons tous besoin de sentir la main chaleureuse de l'amitié et d'entendre la déclaration de foi ferme. Cependant, une nouvelle appellation, une nouvelle souplesse et une diminution du nombre de rapports ne feront pas la moindre différence dans notre service si nous ne voyons pas cela comme une invitation à prendre soin les uns des autres avec plus de hardiesse et de sainteté, comme le président Nelson vient juste de le dire. En élevant notre regard spirituel vers une application plus universelle de la loi d'amour, nous rendons hommage aux générations qui ont servi de cette façon pendant des années. Je vais mentionner un exemple récent de ce genre de dévouement dans l'espoir que le plus grand nombre comprendra le commandement du Seigneur d'être avec nos frères et sœurs et de les fortifier. Le 14 janvier dernier, un dimanche, peu de temps après 17 heures, mes jeunes amis, Brett et Christine Hamblin, bavardaient chez eux à Tempe, Arizona, après une journée de service à l'épiscopat pour Brett et à s'occuper des 5 enfants pour Christine. Soudain, Christine, qui avait survécu en apparence à un cancer du sein l'année précédente, a perdu connaissance. Après un appel au service de secours, une équipe médicale est arrivée et a essayé désespérément de la réanimer. Pendant que Brett priait de toutes ses forces, il a passé rapidement 2 autres appels téléphoniques seulement. L'un à sa mère pour lui demander de l'aide avec les enfants, l'autre à Edwin Potter, son instructeur au foyer. Le 2e appel s'est déroulé intégralement comme suit. Voyant le numéro de l'appelant, Edwin a dit « Salut Brett, quoi de neuf ?» Brett a répondu presque en hurlant « J'ai besoin de toi ici, maintenant !» En moins de temps qu'il n'a fallu à Brett pour le dire, son collègue de la prêtrise était à ses côtés, s'occupant des enfants et le conduisant à l'hôpital derrière l'ambulance qui transportait sa femme. Là, moins de 40 minutes après avoir perdu connaissance, Christine a été déclarée morte par les médecins. Tandis que Brett sanglotait, Edwin l'a pris dans ses bras et a pleuré avec lui pendant un long, long moment. Puis, laissant Brett partager sa peine avec d'autres membres de sa famille, Edwin s'est rendu chez l'évêque pour l'informer de ce qui était arrivé. L'évêque, merveilleux évêque, est immédiatement parti pour l'hôpital, tandis qu'Edwin retournait chez les Hamblin. Là, avec sa femme, Charlotte, qui était aussi accourue, ils ont joué avec les 5 enfants, maintenant orphelins de mère, âgés de 3 à 12 ans, leur ont donné le repas du soir, ont organisé un petit récital improvisé et les ont aidés à se coucher. Plus tard, Brett m'a dit, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, Ce n'est pas qu'Edwin soit venu quand je l'ai appelé. En cas d'urgence, il y a toujours des gens prêts à aider. Non. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'il soit celui à qui j'ai pensé. Il y avait d'autres personnes dans le coin. Christine a un frère et une sœur qui vivent tous les deux à moins de 5 kilomètres. Nous avons un évêque merveilleux. Mais la relation entre Edwin et moi est telle que j'ai instinctivement pensé à l'appeler quand j'ai eu besoin d'aide. L'Église nous donne une manière structurée de mieux vivre le deuxième commandement. Aimer, servir et tisser des liens avec nos frères et sœurs qui nous aident à nous rapprocher de Dieu. Fin de citation. De l'expérience, Edwin a dit. Frère Holland, l'ironie dans cette histoire est que Brett a été notre instructeur au foyer pendant plus de temps que j'ai été le sien. Pendant ce temps, il nous a rendu visite plus comme un ami que par devoir. Et il a été un merveilleux exemple et l'archétype de ce qu'un détenteur de la prêtrise actif et engagé doit être. Ma femme, nos fils et moi, ne voyons pas en lui quelqu'un qui est obligé de nous apporter un message à la fin de chaque mois. Nous le considérons comme un ami qui vit tout près, au bout de la rue, et qui ferait n'importe quoi pour notre bien. Je suis heureux d'avoir pu lui rendre une partie de la dette que j'ai envers lui. Frères et sœurs, je me joins à vous pour saluer chaque instructeur de quartier, chaque instructeur de paroisse, chaque instructeur au foyer, chaque instructrice visiteuse qui a aimé et servi si fidèlement tout au long de notre histoire. Nous prions aujourd'hui pour que chaque homme et chaque femme, ainsi que les jeunes gens et jeunes filles plus âgées, ressortent de cette conférence générale avec un engagement plus profond de prendre soin sincèrement les uns des autres, n'étant motivés à le faire que par l'amour pur du Christ. Malgré tous les handicaps et les insuffisances que nous connaissons, puissions-nous, et nous avons tous des épreuves, puissions-nous néanmoins travailler côte à côte avec le Seigneur de la vigne. En aidant Dieu, notre Père à tous, dans la tâche exigeante qui est la sienne, de répondre aux prières, de réconforter, de sécher les larmes et de renforcer les genoux qui chancellent. Si nous agissons ainsi, nous ressemblerons davantage aux vrais disciples du Christ que nous sommes tous censés être. Pendant ce dimanche de Pâques, puissions-nous nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. C'est là ma prière. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Quelle merveilleuse bénédiction que de vivre à une époque de révélation continue émanant de Dieu, tandis que nous attendons avec impatience et accueillons le rétablissement de toute chose qui a commencé et continuera de se dérouler au fil des événements prophétisés sur notre époque. Nous nous sommes préparés pour la seconde venue du Sauveur. Et quel meilleur moyen de nous préparer à le rencontrer que de nous efforcer de devenir semblables à lui en servant notre prochain avec amour. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples au début de cette dispensation « Si tu m'aimes, tu me serviras ». En étant au service de notre prochain, nous manifestons notre qualité de disciple, ainsi que notre reconnaissance et notre amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. Nous pensons parfois qu'il faut faire quelque chose de grandiose et d'héroïque pour que cela compte comme service à notre prochain. Toutefois, les petits actes de service peuvent avoir une profonde influence sur les autres ainsi que sur nous-mêmes. Qu'a fait le Sauveur ? Grâce au don divin de l'expiation et de la résurrection que nous célébrons ce beau dimanche de Pâques, personne d'autre n'a eu une influence aussi grande que lui sur tous les gens qui ont vécu ou qui vivront un jour sur la terre. Mais il a aussi souri, parler, accompagner, écouter, accorder du temps encouragé, instruit, nourri et pardonné. Il a servi sa famille et ses amis, ses voisins comme les inconnus. Et il a invité ses connaissances et ses êtres chers à profiter de grandes bénédictions de l'Évangile. Ces actes simples de service et d'amour constituent un modèle pour nous aujourd'hui. Lorsque vous avez l'honneur de représenter le Sauveur dans votre service, demandez-vous, comment puis-je transmettre la lumière de l'Évangile à cette personne ou à cette famille? Qu'est-ce que l'Esprit m'inspire de faire? On peut servir de différentes manières personnalisées. Alors, quelle forme cela prend-il? Cela peut être des présidences de collèges d'anciens et de sociétés de secours qui tiennent conseil dans la prière sur les tâches à confier. Au lieu de dirigeants se contentant de distribuer des bouts de papier, cela peut être des entretiens au sujet des personnes et des familles au moment où les tâches sont confiées à des frères et sœurs de service. Cela peut être se promener ensemble, se réunir pour une soirée de jeu, proposer de rendre service ou même rendre service ensemble. Cela peut être rendre une visite personnelle ou avoir une conversation au téléphone, en ligne ou par SMS. Cela peut être envoyer une carte d'anniversaire et encourager un joueur lors d'un match de football. Cela peut consister à assister à une écriture ou un passage de discours de conférence qui pourrait être important pour la personne. Cela peut consister à discuter d'une question de l'Évangile et à rendre témoignage afin d'apporter clarté et paix. Cela peut consister à s'intégrer dans la vie de quelqu'un et à se soucier de cette personne. Cela peut consister à avoir des entretiens de service au cours desquels on discutera des besoins et des points forts avec tact et correction. Cela peut être le conseil de paroisse qui s'organise pour répondre à un besoin plus important. Ce genre de service a fortifié une sœur qui avait emménagé loin de chez elle lorsque son mari a commencé ses études de troisième cycle. Son téléphone était en panne et elle devait s'occuper d'un petit bébé. Elle était désorientée dans cette nouvelle ville, totalement perdue et seule. À l'improviste, une sœur de la société de secours est arrivée à sa porte et avec une petite paire de souliers pour le bébé. Elle a emmené la mère et l'enfant dans sa voiture jusqu'au supermarché. La sœur reconnaissante a rapporté « Elle m'a sauvé la vie ». Le véritable service est illustré par une sœur âgée d'Afrique à qui l'on a confié la tâche de partir à la recherche d'une sœur qui ne venait plus aux réunions depuis longtemps. Lorsqu'elle est allée chez la sœur, elle a découvert qu'elle avait été battue et cambriolée, avait très peu à manger et n'avait pas de vêtements qui lui paraissaient convenables pour les réunions dominicales à l'église. La femme chargée de prendre soin d'elle lui a prêté une oreille attentive et lui a donné des légumes de son jardin, des écritures à lire et son amitié. La sœur absente est vite revenue à l'église et remplit maintenant un appel parce qu'elle se sait aimée et appréciée. La combinaison d'efforts semblables de la société de secours avec ceux du collège des anciens maintenant restructurés créera une unité qui peut donner des résultats étonnants. Le service deviendra un effort conjoint permettant de s'acquitter du devoir de la prêtrise, de rendre visite à chaque membre et de veiller sur les membres de l'Église, être avec eux et les fortifier, ainsi que d'atteindre l'objectif de la société de secours qui est de nous aider les unes les autres à nous préparer pour les bénédictions de la vie éternelle. En œuvrant ensemble sous la direction de l'évêque, les présidences du collège des anciens et de la société de secours peuvent recevoir l'inspiration lorsqu'elles recherchent les meilleurs moyens de veiller sur chaque personne et chaque famille et de répondre à leurs besoins. Je vais vous donner un exemple. Une mère a appris qu'elle avait le cancer. Les traitements ont commencé rapidement et immédiatement, les sœurs de la société de secours se sont mises au travail en organisant au mieux leur aide pour les repas, les transports aux rendez-vous médicaux, etc. Elles lui ont régulièrement rendu visite, lui apportant une compagnie enjouée. Simultanément, le collège de la prêtrise de Melchizedek est passé à l'action. Il a fourni la main-d'œuvre pour transformer une chambre et une salle de bain afin de faciliter les soins à la sœur malade. Les jeunes gens ont offert leurs mains et leur dos pour ces gros travaux. Et les jeunes filles se sont joyeusement organisées pour promener finalement le chien de la famille tous les jours. Au fil du temps, la paroisse a continué de servir, ajoutant et adaptant selon les besoins. Il est clair qu'il s'agissait d'une œuvre d'amour, chaque membre donnant de lui-même, montrant à l'unisson de la sollicitude de manière individualisée, qui a fait du bien non seulement à la sœur souffrante, mais également à chaque membre de sa famille. Après un vaillant combat, la sœur a fini par succomber au cancer et a été enterrée. Est-ce que la paroisse a poussé un soupir de soulagement et estimé que la tâche était bien faite et bien terminée? Non. Les jeunes filles ont continué de sortir le chien tous les jours. Les collèges de prêtrise ont continué de prendre soin du père et de ses enfants. Et les sœurs de la Société de Secours ont continué de veiller avec amour pour évaluer les forces et les besoins. Frères et sœurs, c'est cela le service, c'est aimer à la manière du Sauveur. Une autre bénédiction qui découle de ces annonces inspirées est la possibilité que les jeunes filles de 14 à 18 ans vont avoir d'être des compagnes de service pastoral des sœurs de la Société de Secours, tout comme les jeunes gens de leur âge sont des compagnons de service pastoral pour les frères de la prêtrise de Melchizedek. Les jeunes peuvent faire profiter les adultes de leurs dons uniques et progresser spirituellement en servant à leur côté dans l'œuvre du salut. Leur participation aux tâches de service peut également augmenter la portée de l'aide que les sœurs de la Société de Secours et les collèges d'anciens peuvent apporter du fait de l'augmentation du nombre de participants. En pensant aux jeunes filles extraordinaires que j'ai connues, je suis heureuse pour ces sœurs de la Société de Secours qui ont la chance de bénéficier de l'enthousiasme, des talents et de la sensibilité spirituelle d'une jeune fille en servant avec elle ou en étant servie par elle. Et je me réjouis également de la chance qu'auront les jeunes filles d'être formées, instruites et fortifiées par leurs sœurs de la Société de Secours. Cette occasion de participer à l'édification du Royaume de Dieu sera un bienfait énorme pour les jeunes filles en les aidant à mieux se préparer à remplir leur rôle de dirigeante dans l'Église et la collectivité et à être des partenaires contributrices au sein de leur famille. Comme sœur Oscarson l'a dit hier, les jeunes filles veulent rendre service. Elles ont besoin de savoir qu'elles sont appréciées et indispensables à l'œuvre du salut. En réalité, les jeunes filles servent déjà, sans qu'on le leur demande et sans tambour ni trompette. Une famille de ma connaissance a déménagé à des milliers de kilomètres dans un endroit où elle ne connaissait personne. La première semaine, une jeune fille de 14 ans s'est présentée à sa porte avec une assiette de petits gâteaux pour lui souhaiter la bienvenue dans le quartier. Sa mère, debout derrière, souriante, était le chauffeur disposé à soutenir le désir de sa fille de rendre service. Un jour, une autre mère s'est inquiétée que sa fille de 16 ans ne soit pas à la maison à l'heure habituelle. Lorsque cette dernière est enfin rentrée, elle l'a questionnée, quelque peu contrariée. La jeune fille, presque penaude, a répondu qu'elle avait apporté une fleur à une veuve qui habitait le quartier. Elle avait remarqué qu'elle semblait bien seule et s'est sentie poussée à lui rendre visite. Avec l'approbation totale de sa mère, elle a continué à rendre visite à la femme âgée. Elles sont devenues de bonnes amies et leur doux attachement a duré des années. Chacune de ces jeunes filles et bien d'autres comme elle a remarqué un besoin et s'est efforcée de le satisfaire. Les jeunes filles ont le désir naturel de prendre soin d'autrui et de partager qui peut être bien orienté vers le service en partenariat avec une sœur adulte. Quel que soit notre âge, lorsque nous réfléchissons à la manière de servir plus efficacement, nous demandons « De quoi a-t-elle ou il besoin ?» En associant cette question à un désir sincère de servir, nous sommes amenés par l'Esprit à faire ce qui édifiera et fortifiera la personne. J'ai entendu un nombre incalculable d'histoires de frères et de sœurs qui ont été bénis par un simple geste d'accueil et de bienvenue à l'Église. Un courriel ou un textio attentionné, un contact personnel à un moment difficile, une invitation à participer à une activité de groupe ou une proposition d'aide dans une situation délicate. Les parents seuls, les nouveaux convertis, les membres non pratiquants, les veuves et veuves ou les jeunes en difficulté ont particulièrement besoin d'attention et sont prioritaires pour recevoir l'aide des frères et sœurs de service. La coordination entre les présidences de collèges d'anciens et de sociétés de secours permet de bien attribuer les tâches. En définitive, le véritable service est rendu une personne à la fois, motivée par l'amour, la valeur, le mérite et la merveille du service sincère. C'est qu'il change véritablement la vie. Lorsque nous avons le cœur ouvert et disposé à aimer et à intégrer, à encourager et à réconforter, la force de notre service est irrésistible. Si nous sommes motivés par l'amour, il se produira des miracles et nous trouverons les moyens de ramener nos frères et sœurs absents dans l'étreinte de l'Évangile de Jésus-Christ, où chacun a sa place. Le Sauveur est notre exemple en tout, non seulement pour ce que nous devons faire, mais aussi pourquoi nous devons le faire. Sa vie sur la terre était une invitation à prendre un peu de recul, à oublier nos problèmes et à tendre la main aux autres. En acceptant l'occasion de servir de tout cœur nos sœurs et nos frères, nous nous raffinerons spirituellement, nous serons plus en harmonie avec la volonté de Dieu et plus en mesure de comprendre son plan d'aider chacun à retourner auprès de lui. Nous serons plus conscients de ses bénédictions et aurons le désir d'en faire profiter les autres. Notre cœur chantera l'unisson avec notre voix. Je voudrais aimer mon frère ainsi que tu m'as aimé et puiser en toi ma force pour te servir à jamais. Je voudrais aimer mon frère. Seigneur, je te suivrai. Puissions-nous montrer notre reconnaissance et notre amour pour Dieu en servant avec amour nos frères et sœurs éternels. Nous aurons ainsi le même sentiment d'unité qui a régné pendant 100 ans parmi le peuple de l'Amérique ancienne après la visite du Sauveur dans leur pays. Et il arriva qu'il n'y eut pas de querelle à cause de l'amour de Dieu qui demeurait dans le cœur du peuple. Il n'y avait pas d'envie ni de discorde. Et assurément, il ne pouvait pas y avoir de peuple plus heureux parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. C'est avec joie que je témoigne que ces changements révélés sont inspirés de Dieu et que si nous les accueillons d'un cœur bien disposé, nous serons mieux préparés à rencontrer son Fils, Jésus-Christ, à sa venue. Nous ressemblerons davantage à un peuple de Sion et éprouverons une joie immense avec les personnes qui nous auront aidés le long du chemin des disciples. Je prie ardemment et humblement pour que nous le fassions au nom de Jésus-Christ. Amen.
L'assemblée et le chœur chanteront Sauveur d'Israël, numéro 5, dans le recueil de cantiques français. Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre Elder Dieter Uhrdorf du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Gérald Cossé, évêque président de l'Église, Elder Quentin L. Cook du Collège des Douze Apôtres nous adressera ensuite la parole. Après le discours de frère Cook, le chœur chantera « Aimez vos frères », le numéro 200 dans le recueil de cantiques français.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Sauveur d'Israël est véritablement la source de notre joie. Mes chers frères et sœurs, chers amis, je suis reconnaissant d'être parmi vous en cette merveilleuse conférence générale. Ariette et moi, nous réjouissons de souhaiter la bienvenue à frère Gong et frère Soares en tant que membres du Collège des 12 apôtres. Bien que mon cher ami, le président Monson, me manque, j'aime et je soutiens notre prophète et président Russell Nelson et ses nobles conseillers. Je suis également reconnaissant et honoré de travailler de nouveau plus près de mes chers frères du Collège des 12. Surtout, je suis profondément ému et très heureux d'être membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Église dans laquelle des millions d'hommes et de femmes et d'enfants sont disposés à édifier là où ils sont, quelles que soient leurs compétences ou leurs appels, et à s'efforcer de tout leur cœur de servir Dieu et leurs prochains, bâtissant ainsi le royaume de Dieu. Aujourd'hui est un jour sacré. C'est le dimanche de Pâques, où nous commémorons le matin glorieux, où le Sauveur a rompu les liens de la mort et est sorti triomphant du tombeau. Récemment, j'ai cherché sur Internet la réponse à la question « Quel jour a le plus changé le cours de l'histoire ?» Les réponses étaient parfois surprenantes ou étranges, comme vous pouvez l'imaginer, mais parfois encore intéressantes ou incitées à la réflexion. Il était fait mention notamment du jour où un astéroïde préhistorique a frappé la péninsule du Yucatan, ou de celui où Johannes Gutenberg a achevé sa presse d'imprimerie. Et bien sûr, du jour où, en 1903, les frères Wright ont démontré que l'homme peut véritablement voler. Si la même question vous était posée, que répondriez-vous? Pour moi, la réponse est claire. Afin de trouver le jour le plus important de l'histoire, nous devons retourner à ce soir dans le jardin de Gethsémané, il y a plus de 2000 ans, où le Christ s'est agenouillé en une prière fervente et s'est offert en rançon pour nos péchés. C'est lors de ce sacrifice immense et infini, d'une douleur incomparable tant dans le corps que l'esprit, que Jésus-Christ, Dieu, a saigné par chaque pore. Dans son amour parfait, il a tout donné afin que nous puissions tout recevoir. Son sacrifice éternel, difficile à comprendre et qui ne nous est perceptible que quand nous y mettons tout notre cœur et tout notre esprit, nous rappelle la dette universelle de gratitude que nous avons vis-à-vis du Christ pour son don divin. Plus tard, ce soir-là, Jésus a été amené devant les autorités religieuses et politiques qui se sont moqués de lui, l'ont frappé et l'ont condamné à une mort indigne. Il a souffert l'agonie sur la croix jusqu'à ce qu'enfin tout soit accompli. Son corps sans vie a été déposé dans un tombeau d'emprunt. Puis, le matin du troisième jour, Jésus-Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant, est sorti du tombeau en être glorieux et ressuscité, en être de splendeur, de lumière et de majesté. Oui, de nombreux événements tout au long de l'histoire ont profondément affecté la destinée des nations et des peuples. Toutefois, même quand on les additionne tous, leur importance ne peut absolument pas se comparer à ce qui s'est passé en ce premier matin de Pâques. Qu'est-ce qui fait du sacrifice infini et de la résurrection de Jésus-Christ les événements les plus importants de l'histoire, plus influents encore que les guerres mondiales, les cataclysmes et les découvertes scientifiques à l'origine de grands changements? La réponse réside dans deux difficultés immenses, insurmontables, auxquelles chacun de nous est confronté. Premièrement, nous mourrons tous. Que vous soyez jeune, beau, en bonne santé ou vigilant, un jour, votre corps sera trouvé sans vie. Vos amis et votre famille vous pleureront, mais ils ne pourront pas vous ramener. Néanmoins, grâce à Jésus-Christ, votre mort ne sera que temporaire. Un jour, votre esprit sera réuni à votre corps. Ce corps ressuscité ne sera plus sujet à la mort, et vous vivrez dans les éternités, libérés de la douleur et de la souffrance physique. Cela se produira grâce à Jésus-Christ, qui a donné sa vie et l'a reprise. Il l'a fait pour toutes les personnes qui croient en lui. Il l'a fait pour toutes les personnes qui ne croient pas en lui. Il l'a fait même pour celles qui se moquent de lui, qui l'injurient et qui maudissent son nom. Deuxièmement, nous avons tous péché. Nos péchés nous auraient à jamais empêchés de vivre avec Dieu, car rien d'impur ne peut entrer dans son royaume. En conséquence, chaque homme, chaque femme, chaque enfant ont été retranchés de sa présence jusqu'à ce que Jésus-Christ, l'agneau sans tache, offre sa vie en rançon pour nos péchés. Parce que Jésus n'avait aucune dette à l'égard de la justice, il a pu payer la nôtre et satisfaire aux exigences de la justice pour chaque âme. Et cela inclut vous et moi. Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés, de tous nos péchés. En ce jour le plus important de l'histoire, Jésus le Christ a ouvert les portes de la mort et repoussé les barrières qui nous empêchaient de pénétrer dans les sphères sacrées de la vie éternelle. Grâce à notre Seigneur et Sauveur, vous et moi avons reçu le don le plus précieux. Quel que soit notre passé, nous pouvons nous repentir et suivre le chemin qui conduit à la lumière et à la gloire éternelle, entourés des enfants fidèles de notre Père qui est aux cieux. Voilà ce que nous célébrons le dimanche de Pâques. Nous célébrons la vie. Grâce à Jésus-Christ, nous nous relèverons du désespoir de la mort et embrasserons nos êtres chers en versant des larmes de joie et de gratitude débordantes. Grâce à Jésus-Christ, nous deviendrons des êtres éternels, vivant à jamais. Grâce à Jésus-Christ, nos péchés peuvent non seulement être effacés, mais oubliés. Nous pouvons être purifiés et exaltés. Nous pouvons être saints. Grâce à notre Sauveur bien-aimé, nous pourrons boire à jamais à la fontaine de l'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Nous pourrons vivre dans les demeures de notre Roi éternel, dans une gloire inconcevable et un bonheur parfait. En dépit de tout cela, il y en a beaucoup dans le monde aujourd'hui qui, soit ne le connaissent pas, soit ne croient pas en ce précieux don que Jésus-Christ nous a accordé. Ils ont peut-être entendu parler de Jésus-Christ et le connaissent comme personnage de l'histoire, mais ils ne voient pas en lui ce qu'il est vraiment. En réfléchissant à cela, je me rappelle le Sauveur, quelques heures avant sa mort, comparaissant devant le préfet romain de Judée, Ponce Pilate. Seulement quelques heures avant sa mort, Pilate considérait Jésus d'un point de vue strictement humain. Il avait un travail à accomplir qui consistait en deux tâches essentielles. Collecter les impôts pour Rome et maintenir la paix. Et voilà que le Sanhédrin juif lui a mené un homme qui l'accusait de constituer un obstacle à ces deux choses. Après avoir interrogé son prisonnier, Pilate déclara « Je ne trouve aucun crime en lui ». Mais sentant qu'il devait apaiser les accusateurs de Jésus, Pilate fit appel à une coutume locale qui autorisait à relâcher un prisonnier durant la Pâque. Ne libérerait-il pas Jésus plutôt que le voleur et meurtrier notoire Barabbas ? Mais la foule tumultueuse demanda que Pilate relâche Barabbas et crucifie Jésus. Pourquoi ? Demanda Pilate. Quel mal a-t-il fait ? Mais ils ne firent que crier plus fort : Crucifie-le ! Dans un dernier effort pour contenter la foule, Pilate ordonna à ses hommes de frapper Jésus de verges. Ils le firent, laissant son corps couvert de sang et meurtri. Ils se moquèrent de lui, posèrent une couronne d'épines sur sa tête et le revêtirent d'une tunique pourpre. Peut-être Pilate pensait-il que cela satisferait les désirs sanguinaires de la foule. Peut-être aurait-elle pitié de l'homme. Il dit, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Voici l'homme. » Le Fils de Dieu se tenait en personne devant le peuple de Jérusalem. Les gens voyaient Jésus, mais sans vraiment le voir. Ils n'avaient pas Dieu pour voir. Au sens figuré, nous sommes invités, nous aussi, à regarder l'homme. Diverses opinions sont émises dans le monde à son sujet. Les prophètes anciens et modernes témoignent qu'il est le Fils de Dieu. Et je le fais également. Il est important et même essentiel que chacun de nous le sache personnellement. Ainsi donc, lorsque vous méditez sur la vie et le ministère de Jésus-Christ, que voyez-vous ? Les personnes qui regardent véritablement l'homme trouvent la porte d'accès aux plus grandes joies de la vie, ainsi que le baume à même de guérir le désespoir le plus profond. Ainsi, lorsque vous êtes envahi par le chagrin et la douleur, regardez l'homme. Quand vous vous croyez perdu ou oublié, regardez l'homme. Quand vous êtes désespéré, abandonné, blessé ou abattu, quand vous doutez, regardez l'homme. Il vous consolera, il vous guérira et donnera un sens à votre vie. Il déversera son esprit sur vous et remplira votre cœur d'une joie immense. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Lorsque nous regardons véritablement l'homme, nous apprenons de lui et nous cherchons à conformer notre vie à son enseignement. Nous nous repentons et nous efforçons de raffiner notre nature et de nous rapprocher chaque jour un peu plus de lui. Nous lui faisons confiance. Nous lui montrons notre amour en respectant ses commandements et en vivant en accord avec nos alliances sacrées. Autrement dit, nous devenons ses disciples. Sa lumière purificatrice emplit notre âme. Sa grâce nous élève. Nos fardeaux sont allégés. Notre paix devient plus profonde. Si nous regardons véritablement l'homme, nous avons la promesse d'un avenir béni qui nous inspire et nous édifie à travers les aléas du voyage de la vie. En regardant en arrière, nous nous rendrons compte qu'il existe un modèle divin, que les points sont véritablement reliés. Si vous acceptez son sacrifice et devenez son disciple, qu'adviendra-t-il des peines que vous avez endurées dans cette vie? Lorsque vous atteindrez finalement la fin de votre voyage terrestre, elles ne seront plus. Des déceptions, des trahisons, des persécutions que vous avez subies, disparues. Des souffrances, des peines de cœur, de la culpabilité, de la honte et de l'angoisse que vous avez connues, dissipées, oubliées. Est-il surprenant que nous parlions du Christ? Nous nous réjouissions dans le Christ? Nous prêchions le Christ, nous prophétisions concernant le Christ, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Est-il surprenant que nous nous efforcions de tout notre cœur de regarder véritablement l'homme? Mes chers frères et sœurs, je témoigne que le jour le plus important de l'histoire de l'humanité est celui où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a remporté la victoire sur la mort et le péché pour tous les enfants de Dieu. Et le jour le plus important de votre vie et de la mienne est celui où nous apprenons à regarder l'homme, où nous voyons qui il est vraiment, où nous décidons de tout notre cœur et de tout notre esprit de bénéficier de son pouvoir expiatoire et où nous nous engageons avec une force et un enthousiasme renouvelés à le suivre. Puisse ce jour se répéter sans cesse tout au long de notre vie. Je vous témoigne que si nous regardons l'homme, nous trouverons sens, joie et paix dans cette vie terrestre, ainsi que la vie éternelle dans le monde à venir. Et je vous bénis en ce sens, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Une expérience vécue lors de la préparation de la construction du magnifique temple de Paris est restée à jamais gravée dans ma mémoire. En 2010, lorsque le terrain du temple a été trouvé, le maire de la commune a désiré nous rencontrer pour en savoir plus sur l'église. Cette réunion était capitale pour l'obtention d'un permis de construire. Nous avons minutieusement préparé une présentation PowerPoint comprenant plusieurs photos impressionnantes de temples mormons. J'espérais ardemment que la beauté architecturale de ces bâtiments suffirait à convaincre le maire de soutenir notre projet. À ma grande surprise, le maire nous a dit que, plutôt que de regarder notre présentation, lui et son équipe préféraient réaliser une enquête par eux-mêmes pour découvrir quel genre d'église nous étions exactement. Le mois suivant, il nous a de nouveau invités pour nous faire entendre le rapport rendu par une conseillère municipale, par ailleurs professeure d'histoire des religions. Elle s'est levée et a dit « Plus que tout, nous avons voulu comprendre qui sont les membres de votre église. Premièrement, nous avons assisté à l'une de vos réunions de Sainte-Seine. Assis au fond de la salle de culte, nous avons observé les gens de l'assemblée et ce qu'ils faisaient. Puis, nous avons rencontré vos voisins, qui habitent autour de votre centre de pieux, pour leur demander quel genre de personne vous êtes, vous, les Mormons. Et alors, quelles sont vos conclusions, ai-je demandé, un peu anxieux. Elle a répondu, nous avons découvert que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est l'Église la plus proche de l'Église originale du Christ que nous connaissions. J'ai failli objecter, ça n'est pas totalement vrai. Ça n'est pas l'Église la plus proche, c'est l'Église de Jésus-Christ, la même Église, la vraie Église. Mais je me suis abstenu et ai fait une prière silencieuse de reconnaissance. Le maire nous a alors annoncé que, sur les bases de leur étude, son équipe et lui n'avaient aucune objection à la construction d'un temple dans leur commune. Aujourd'hui, quand je repense à cette expérience miraculeuse, j'éprouve de la reconnaissance pour la sagesse et l'esprit de discernement du maire. Il savait que la clé pour comprendre notre Église est de la voir non pas sous la forme des bâtiments dans lesquels nous nous réunissons, ni même comme une institution bien organisée, mais à travers ces millions de membres fidèles qui s'efforcent chaque jour de suivre l'exemple de Jésus-Christ. La définition de l'Église peut être tirée d'un passage du Livre de Mormon qui dit des disciples du Sauveur « Et ceux qui furent baptisés au nom de Jésus-Christ furent appelés l'Église du Christ. » Fin de citation. En d'autres termes, l'Église, c'est les personnes. C'est vous, les disciples du Seigneur, vous qui l'aimez, le suivez et avez pris son nom sur vous par alliance. Le président Nelson a un jour comparé l'Église à une belle voiture. Nous aimons tous que notre voiture soit propre et bien lustrée. Mais la raison d'être de la voiture n'est pas d'attirer le regard, c'est de déplacer les personnes qui sont à l'intérieur. De même, nous, membres de l'Église, sommes contents d'avoir de beaux lieux de culte propres et bien entretenus et des programmes qui fonctionnent bien. Mais tout cela n'est qu'un système de soutien. Notre seul but est d'inviter chaque fils et chaque fille de Dieu à aller au Christ et de les guider sur le chemin des alliances. Rien n'est plus important. Nos efforts ont pour seul but les personnes et leurs alliances. N'est-il pas merveilleux que le nom donné par révélation à l'Église rétablie réunisse les deux éléments les plus importants dans chaque alliance de l'Évangile ? D'abord, le nom de Jésus-Christ. Cette Église lui appartient. Il en est le chef. Et son sacrifice expiatoire et les alliances de l'Évangile sont le seul chemin qui mène au salut et à l'exaltation. Le deuxième nom fait référence à nous-mêmes, les saints, ou en d'autres termes, ses témoins et ses disciples. J'ai appris l'importance de porter notre attention sur les personnes quand j'ai été président du Pieux de Paris. Au début de mon service, j'avais en tête des objectifs très ambitieux pour le Pieux. La création de nouvelles paroisses, la construction de nouvelles églises, et même la construction d'un temple dans notre région. 6 ans plus tard, lorsque j'ai été relevé, aucun de ces objectifs n'avait été atteint. J'aurais pu avoir l'impression d'un échec total. Sauf que mes objectifs avaient complètement changé au cours de ces 6 années. Le jour de ma relève, assis sur l'estrade, j'ai été envahi par un sentiment d'amour, de reconnaissance et d'accomplissement. J'ai contemplé les visages des centaines de membres présents dans la salle. J'aurais pu raconter une expérience spirituelle à propos de chacun d'eux. Il y avait les frères et les sœurs qui étaient entrés dans les eaux du baptême. Ceux dont j'avais signé la première recommandation pour qu'ils puissent recevoir les ordonnances sacrées du temple. Et les jeunes gens et les couples que j'avais mis à part ou relevés en tant que missionnaires à plein temps. Il y avait encore toutes les personnes que j'avais accompagnées dans mon ministère, tandis qu'elles traversaient des épreuves difficiles. J'éprouvais un profond amour fraternel pour chacune. J'avais trouvé une joie pure à les servir. Et je me réjouissais de voir que leur loyauté et leur foi dans le Sauveur avaient grandi. Le président Ballard a enseigné « Le plus important dans nos responsabilités ecclésiastiques n'est pas les statistiques dont on fait rapport, ni les réunions qui se tiennent, mais que les personnes que l'on a servies une à une, comme le Sauveur l'a fait, aient été édifiés et encouragés et finalement échangés. » Mes chers frères et sœurs, sommes-nous actifs dans l'Évangile ou bien sommes-nous simplement occupés dans l'Église? La clé est de suivre l'exemple du Sauveur en tout. Si nous le faisons, alors nous nous concentrerons naturellement sur les personnes, au lieu de nous préoccuper d'accomplir des tâches et d'appliquer des programmes. Vous êtes-vous jamais demandé ce qui se passerait si le Sauveur visitait votre paroisse ou votre branche dimanche prochain, Que ferait-il? Se préoccuperait-il de savoir si les aides visuelles sont assez bien faites? Ou si les chaises sont bien disposées dans la salle de classe? Ou bien, trouverait-il quelqu'un qu'il peut aimer, instruire et bénir? Peut-être chercherait-il un nouveau membre ou un ami à accueillir, un frère ou une sœur malade qui a besoin de réconfort, ou un jeune dont la foi vacille et qui a besoin d'être édifié et encouragé. Quelle classe Jésus visiterait-il? Je ne serais pas surpris qu'il visite les enfants de la primaire en premier. Il s'agenouillerait probablement pour leur parler les yeux dans les yeux. Il leur exprimerait son amour, leur raconterait des histoires, les féliciterait pour leurs desseins et témoignerait de son Père céleste. Il se comporterait de manière simple, naturelle et sans façon. Pouvons-nous faire la même chose? Je vous promets que si vous vous efforcez de suivre l'ordre du jour du Seigneur, rien ne deviendra plus important pour vous que de trouver les personnes que vous pouvez aider et bénir. À l'Église, vous vous attacherez à instruire les personnes et à toucher leur cœur. Votre préoccupation sera de favoriser une expérience spirituelle plutôt que d'organiser une activité parfaite, de servir vos semblables plutôt que de cocher dans une case le nombre de visites que vous avez faites. Ce qui importera, ce ne sera pas vous, mais eux que nous appelons nos frères et sœurs. Nous parlons d'aller à l'Église, mais l'Église est plus qu'un bâtiment ou un lieu particulier. Elle est tout aussi réelle et vivante, dans la plus humble demeure, dans les régions les plus éloignées du monde, qu'au siège de l'Église à Salt Lake City. Le Seigneur lui-même a dit « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous emportons l'Église avec nous partout où nous allons, au travail, à l'école, en vacances et surtout chez nous. Notre seule présence et notre influence peuvent suffire pour faire de chaque endroit où nous nous trouvons un lieu saint. Je me souviens d'une conversation avec un ami non membre de l'Église. Il était étonné d'apprendre que, dans notre Église, tous les hommes dignes peuvent recevoir la prêtrise. Il m'a demandé « Mais combien avez-vous de détenteurs de la prêtrise dans votre paroisse ?» J'ai répondu « Entre 30 et 40. » Perplexe, il a ajouté « Dans ma paroisse, nous n'avons qu'un seul prêtre. Pourquoi avez-vous besoin d'autant de prêtres le dimanche matin ?» Interpellé par sa question, je me suis senti poussé à répondre « Je suis d'accord avec vous. Je ne crois pas que nous ayons besoin d'autant de détenteurs de la prêtrise à l'église le dimanche. Mais nous avons besoin d'un détenteur de la prêtrise dans chaque foyer. Et quand il n'y a pas de prêtrise dans une famille, des détenteurs de la prêtrise sont désignés pour prendre soin de cette famille. Notre église n'est pas seulement une église du dimanche. Notre culte se poursuit toute la semaine, chaque jour, où que nous soyons et quoi que nous fassions. Notre foyer en particulier est le sanctuaire principal de notre foi. C'est l'endroit où le plus souvent nous prions, nous bénissons, nous étudions et enseignons la parole de Dieu et où nous servons d'un amour pur. Je peux témoigner par expérience personnelle que nos foyers sont des lieux bénis, où l'esprit peut abonder tout autant et parfois même plus que dans nos lieux de culte officiels. Je témoigne que cette église est l'église de Jésus-Christ, la même église qu'il a organisée pendant son ministère terrestre, la vraie église. Elle trouve sa force et sa vitalité dans les actes quotidiens de millions de disciples du Christ, qui s'efforcent chaque jour de suivre son exemple suprême, en prenant soin des autres, où qu'ils se trouvent. Le Christ vit et dirige l'église. Le président Nelson est le prophète qu'il a choisi pour nous diriger et nous guider à notre époque. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Parlant de la consécration du temple de Kirtland à laquelle elle avait assisté, Eliza Snow dit On peut raconter la cérémonie de consécration, mais aucun langage mortel ne peut décrire les manifestations célestes qui ont eu lieu ce jour mémorable. Les anges sont apparus à certains, tandis que toutes les personnes présentes percevaient la présence divine et que chaque cœur était rempli d'une joie ineffable et glorieuse. Les manifestations divines qui se produisirent dans le temple de Kirtland posaient le fondement de l'objectif de l'Église rétablie de Jésus-Christ, qui est de réaliser le salut et l'exaltation des enfants de notre Père Céleste. Nous qui nous préparons à rencontrer Dieu, nous pouvons savoir quelles sont les responsabilités qu'il nous a confiées en examinant les clés sacrées rétablies dans le temple de Kirtland. Dans la prière de consécration, Joseph Smith, le prophète, supplia humblement le Seigneur d'accepter cette maison qu'il avait commandée aux saints de bâtir. Une semaine plus tard, le dimanche de Pâques, le Seigneur apparut dans une vision magnifique et accepta son temple. C'était le 3 avril 1836, presque exactement 182 ans avant ce dimanche de Pâques. Ce fut également l'une des rares fois où Pâques tombait en même temps que la Pâque juive. Au terme de la vision, trois prophètes de jadis, Moïse, Élias et Élie, apparurent et remirent des clés qui étaient indispensables à l'accomplissement du dessein du Seigneur pour son Église rétablie dans cette dispensation. Ce dessein, défini avec simplicité mais éloquence, consiste à rassembler Israël, en sceller chaque famille et préparer le monde à la seconde venue du Seigneur. Le fait qu'Élie et Moïse apparurent tous deux constituait un parallèle frappant avec la tradition juive selon laquelle ils arriveraient ensemble à la fin des temps. Selon notre doctrine, cette apparition était l'accomplissement du rétablissement fondamental de certaines clés données pour les derniers jours et pour la dernière fois dans ce qui est la dispensation de la plénitude des temps. Le temple de Kirtland, de par son emplacement et sa taille, était relativement insignifiant. Mais de par son importance considérable pour l'humanité, il était d'une portée éternelle. Des prophètes de jadis rétablirent des clés de la prêtrise pour les ordonnances salvatrices éternelles de l'Évangile de Jésus-Christ. Les membres fidèles en furent submergés de joie. Ces clés donnent le pouvoir d'en haut pour les responsabilités confiées par Dieu qui, alors et maintenant, constitue la raison d'être principale de l'Église. Ce magnifique jour de Pâques, dans le temple de Kirtland, trois clés furent établies. Premièrement, Moïse apparut et remit les clés du rassemblement d'Israël des quatre coins de la terre, ce qui est l'œuvre missionnaire. Deuxièmement, Élias apparut et remit les clés de la dispensation de l'Évangile d'Abraham, ce qui inclut le rétablissement de l'alliance abrahamique. Le président Nelson a enseigné que la raison d'être de ces clés est de préparer les membres pour le royaume de Dieu. Il a dit, « Nous savons qui nous sommes et ce que Dieu attend de nous. » Troisièmement, Élie apparut et remit les clés du pouvoir de scellement dans cette dispensation, ce qui est l'œuvre de l'histoire familiale et les ordonnances du temple permettant le salut des vivants et des morts. Au siège de l'Église, sous la direction de la première présidence et du Collège des Douze, trois conseils exécutifs supervisent ces trois responsabilités que Dieu nous a confiées, lesquelles sont fondées sur les clés rétablies dans le temple de Kirtland. Il s'agit du conseil exécutif missionnaire, du conseil exécutif de la prêtrise et de la famille, et du conseil exécutif de l'œuvre de l'histoire familiale et du temple. Où en sommes-nous aujourd'hui de l'accomplissement de nos responsabilités que Dieu nous a confiées? Tout d'abord, en ce qui concerne le rétablissement des clés du rassemblement d'Israël remises par Moïse, nous avons aujourd'hui dans le monde entier près de 70 000 missionnaires qui prêchent l'Évangile pour rassembler les élus de Dieu. C'est le commencement de l'accomplissement de l'œuvre grande et merveilleuse que Néphi a vue parmi les gentils et la maison d'Israël. Néphi a vu notre époque où les saints de Dieu demeureraient sur toute la surface de la terre, mais en petit nombre du fait de la méchanceté. Néanmoins, il a vu qu'ils seraient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Compte tenu de la brièveté de l'histoire de l'Église rétablie, l'effort missionnaire a été des plus remarquables. Nous constatons l'accomplissement de la vision de Néphi. Bien que le nombre de nos membres soit relativement faible, nous poursuivons nos efforts et tendrons la main aux personnes qui répondront favorablement au message du Sauveur. Ensuite, Elias apparut et remit la dispensation de l'évangile d'Abraham, disant qu'en nous et en notre postérité, toutes les générations après nous seraient bénies. Lors de cette conférence, des conseils importants ont été donnés pour aider à parfaire les saints et les préparer pour le royaume de Dieu. L'annonce en session de prêtrise relative au collège d'anciens et de grands prêtres va libérer la puissance et l'autorité de la prêtrise. L'instruction au foyer et les sœurs visiteuses, maintenant appelées le service pastoral, tel qu'enseigné éloquemment cette session, prépareront les saints des derniers jours à rencontrer le Seigneur. Enfin, Élie remit les clés de scellement de cette dispensation. Pour nous qui vivons à cette époque, la progression de l'œuvre de l'histoire familiale et du temple est phénoménale. Ce rythme va se poursuivre et s'accélérer jusqu'à la seconde venue du Sauveur. S'il n'en était pas ainsi, la Terre serait entièrement dévastée à sa venue. L'œuvre de l'histoire familiale, bénie des cieux par la technologie, a progressé de façon spectaculaire ces quelques dernières années. Il serait peu sage de négliger cette responsabilité que Dieu nous a confiée et d'attendre que la tante Jane ou un autre parent engagé s'en occupe. Je réitère le commentaire acerbe de Joseph Fielding Smith. Personne n'est exempté de cette grande obligation. Elle est requise de l'apôtre aussi bien que du membre le plus humble. La place, la distinction, les non-services dans l'Église ne donnent pas le droit de négliger le salut de ses ancêtres. Nous avons maintenant des temples dans le monde entier et des fonds pour aider les usagers nécessiteux qui en sont éloignés. Nous ferions bien d'évaluer nos efforts personnels dans l'œuvre missionnaire et celle de l'histoire familiale et du temple et dans notre préparation à rencontrer Dieu. La droiture, l'unité et l'égalité devant le Seigneur sous-tendent ces responsabilités sacrées. En ce qui concerne la droiture, cette vie est le moment où nous devons tous nous préparer à rencontrer Dieu. Le livre de Mormon donne de nombreux exemples des conséquences tragiques que subissent les personnes ou les groupes de personnes qui ne respectent pas les commandements de Dieu. Au cours de ma vie, les problèmes du monde sont passés d'un extrême à l'autre, des quêtes frivoles et futiles à l'immoralité grave. Il est louable que l'immoralité sans consentement soit dévoilée et dénoncée. Ce genre d'immoralité va à l'encontre des lois de Dieu et de la société. Néanmoins, les personnes qui comprennent le plan de Dieu doivent aussi s'opposer à l'immoralité consentie, qui est également un péché. La déclaration au monde concernant la famille prévient que les personnes qui enfreignent les alliances de la chasteté, qui font subir des sévices à leurs conjoints ou à leurs enfants, ou qui que ce soit d'autre, devront un jour en répondre devant Dieu. En regardant autour de nous, nous voyons de tous côtés la désolation provoquée par l'iniquité et les dépendances. Si, personnellement, nous nous soucions vraiment du jugement final de notre Sauveur, nous devons chercher à nous repentir. Je crains que de nombreuses personnes ne se sentent plus responsables devant Dieu et ne se tournent plus vers les Écritures ou les prophètes pour être guidées. Si nous, en tant que société, réfléchissions aux conséquences du péché, il y aurait une opposition publique massive à la pornographie et à la dégradation de la femme au rang d'objet. Comme Alma l'a dit à son fils Corianton dans le livre de Mormon, la méchanceté n'a jamais été le bonheur. En ce qui concerne l'unité, le Sauveur a déclaré « Si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. Nous savons que l'esprit de querelle est du diable. » De nos jours, l'injonction scripturaire d'être unis est largement ignorée et de nombreuses personnes mettent l'accent sur le communautarisme fondé souvent sur le standing, le sexe, la race et la fortune. Dans beaucoup de pays, voire dans la plupart, les gens sont profondément divisés quant au mode de vie. Un thème majeur dans le système d'éducation consiste à mettre en relief les luttes de pouvoir, les privilèges et l'oppression et tous les autres sujets qui divisent les gens. Dans l'Église du Seigneur, la seule culture que nous embrassons et enseignons est la culture de l'Évangile de Jésus-Christ, l'unité que nous recherchons et l'unité avec le Sauveur et ses enseignements. En examinant les objectifs principaux de l'Église, nous constatons qu'ils sont tous fondés sur l'égalité devant le Seigneur et le respect de la culture de l'Évangile de Jésus-Christ. Quant à l'œuvre missionnaire, les qualifications principales pour le baptême sont de s'humilier devant Dieu et de se présenter le cœur brisé et l'esprit contrit. L'instruction, la réussite matérielle, la race ou la nationalité n'entrent même pas en ligne de compte. De plus, les missionnaires servent humblement là où ils sont appelés. Ils ne tentent pas de servir en fonction des critères de standing du monde ou d'une préparation à une carrière future. Ils servent de tout leur cœur, de tout leur pouvoir, de tout leur esprit et de toute leur force là où ils sont affectés. Ils ne choisissent pas leurs collègues missionnaires, mais ils s'efforcent diligemment de cultiver les vertus chrétiennes, ce qui est au cœur de la culture de Jésus-Christ. Les Écritures nous guident dans nos relations les plus importantes. Le Sauveur a enseigné que le premier commandement est d'aimer le Seigneur notre Dieu, et que le second est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il a ensuite expliqué que chaque personne est notre prochain. Le livre de Mormon dit clairement qu'il ne doit pas y avoir de hit, tribu ou classe. Nous devons être unis et égaux. Les ordonnances sacrées et les responsabilités que Dieu nous a confiées reposent sur ce postulat. Je suppose que vos expériences dans le temple sont semblables aux miennes. Lorsque je quittais mon train-train professionnel quotidien à San Francisco et arrivais au temple d'Oakland, j'étais submergé par un sentiment d'amour et de paix. Cela venait en grande partie du fait que j'étais plus proche de Dieu et de ses desseins. Les ordonnances salvatrices étaient ce sur quoi je me concentrais, mais une partie importante de ces beaux sentiments était due à l'égalité et l'unité qui imprègnent le temple. Tout le monde est vêtu de blanc. Rien n'indique la fortune, le rang ou le niveau d'instruction. Nous sommes tous des frères et sœurs qui s'humilient devant Dieu. Dans la salle sacrée de scellement, l'ordonnance du mariage éternel est la même pour tous. J'aime le fait que le couple issu du plus humble des milieux et celui du plus riche vivent exactement la même expérience. Ils portent le même genre de vêtements et contractent les mêmes alliances de part et d'autre d'un même autel. Ils reçoivent également les mêmes bénédictions éternelles de la prêtrise. Cela est accompli dans un beau temple, la maison sacrée du Seigneur, construit grâce à la dîme des membres. En nous acquittant des responsabilités que Dieu nous a confiées dans la droiture, l'unité et l'égalité devant le Seigneur, nous trouverons le bonheur et la paix dans ce monde et nous nous préparerons pour la vie éternelle dans le monde à venir. Cela nous prépare à rencontrer Dieu. Nous prions pour que chacun de vous, quelle que soit sa situation actuelle, s'entretienne avec son évêque et soit digne de détenir une recommandation à l'usage du temple. Nous sommes reconnaissants que davantage de membres se préparent à aller au temple. Depuis de nombreuses années, le nombre de détenteurs adultes d'une recommandation a nettement augmenté. Ces deux dernières années, le nombre de jeunes dignes de détenir une recommandation à usage limité a augmenté de façon spectaculaire. Il est clair que le noyau des membres fidèles de l'Église n'a jamais été aussi fort. En conclusion, soyez assurés que les dirigeants de l'Église au niveau mondial qui président les objectifs de l'Église désignés par Dieu reçoivent son soutien. Ils sont guidés par l'Esprit et parfois directement par le Sauveur. Ces conseils spirituels leur parviennent de ces deux sources. Je suis reconnaissant d'avoir reçu ce soutien. Mais ces conseils sont donnés au moment voulu par le Seigneur, ligne sur ligne et précepte sur précepte, lorsque le Seigneur omniscient choisit délibérément de nous former. Les conseils destinés à l'ensemble de l'Église ne parviennent qu'à son prophète. Lors de cette conférence, nous avons tous eu l'honneur de soutenir Russell Nelson comme prophète et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous, les 12, en groupe et individuellement, avons vécu une expérience spirituelle marquante lorsque nous avons posé les mains sur la tête du président Nelson et que Dalen Oaks, agissant en qualité de porte-parole, l'a ordonné et mis à part comme président de l'Église. Je témoigne qu'il a été préordonné et préparé tout au long de sa vie pour être le prophète du Seigneur de nos jours. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
À la fin de cette conférence, nous exprimons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont travaillé diligemment à la préparation de ces sessions. Nous remercions tous les orateurs, ainsi que toutes les personnes qui nous ont édifiés par la musique. Le dernier orateur de cette session sera notre prophète bien-aimé, Russell M. Nelson, notre prophète bien-aimé. Après son discours, le chœur terminera cette conférence en chantant « Mettons de l'ardeur », le numéro 159 dans le recueil de cantiques français. Ensuite, Valérie Cordon, des 70, fera la prière de clôture et la conférence sera ajournée.
Mes frères et sœurs bien-aimés, cette conférence historique touche à sa fin. Je me joins à vous pour remercier le Seigneur de nous avoir dirigés et inspirés. La musique a été magnifique et édifiante. Nous avons entendu des messages édifiants qui changent la vie. En assemblée solennelle, nous avons soutenu une nouvelle première présidence. Deux grands hommes ont été soutenus au Collège des 12 apôtres et 8 nouveaux 70 autorités générales ont été appelés. Un de mes cantiques préférés résume notre détermination renouvelée, notre défi et notre responsabilité d'avancer. Mettons de l'ardeur au service du Seigneur. C'est le seul vrai chemin qui conduise au bonheur. Au divin combat, marchons avec cœur, armés de vérité. En garde, voici nos ennemis. Courage, nous avons Jésus-Christ. Devant eux, jamais nous ne céderons. Au Seigneur seul, nous obéirons. Je vous exhorte à étudier les messages de cette conférence fréquemment, très fréquemment, au cours des 6 prochains mois. Cherchez consciencieusement des manières d'intégrer ces messages à vos soirées familiales, à votre enseignement de l'Évangile, à vos conversations avec votre famille et vos amis, et même à vos discussions avec les personnes qui ne sont pas de notre foi. Beaucoup réagiront favorablement aux vérités enseignées pendant cette conférence si on les leur communique avec amour. Et votre désir d'obéir augmentera lorsque vous repenserez à ce que vous avez ressenti ces 2 derniers jours. Cette conférence générale marque le début d'une nouvelle ère de service. Le Seigneur a fait d'importantes modifications à la manière dont nous veillons les uns sur les autres. Les sœurs et les frères, âgés et jeunes, se serviront les uns les autres d'une manière nouvelle et plus sainte. Les collèges d'anciens seront renforcés de manière à bénir les hommes, les femmes et les enfants de par le monde. Les sœurs de la société de secours continueront de servir de leur manière unique et aimante. Les sœurs plus jeunes pourront se joindre à elles dans les tâches qui leur seront attribuées de façon appropriée. Notre message au monde est simple et sincère. Nous invitons tous les enfants de Dieu des deux côtés du voile à aller au Sauveur, à recevoir les bénédictions du Saint-Temple, à connaître une joie durable et à se qualifier pour recevoir la vie éternelle. L'exaltation finale exige notre fidélité totale aujourd'hui aux alliances que nous contractons et aux ordonnances que nous recevons dans la maison du Seigneur. Nous avons actuellement 159 temples en service et d'autres sont en construction. Nous voulons rapprocher les temples des membres qui sont de plus en plus nombreux. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer le projet de construire des temples aux endroits suivants. Qui se trouveront aux endroits que je vais dire, Salta en Argentine, Bengaluru en Inde, Managua, Nicaragua, Cagayan de Oro aux Philippines, Layton en Utah, Richmond, Virginia. Richmond en Virginie. Et une ville importante qui doit encore être déterminée en Russie. Mes chers frères et sœurs, la construction de ces temples ne changera peut-être pas votre vie, mais le temps que vous y passerez dans le temple la changera sûrement. Dans cette optique, je vous bénis, afin que vous trouviez à quoi vous pouvez renoncer pour pouvoir passer plus de temps dans le temple. Je vous bénis afin qu'il y ait une plus grande harmonie et un plus grand amour dans votre foyer et que vous ayez un désir plus profond de soigner vos relations familiales éternelles. Je vous bénis afin que vous ayez une foi plus grande au Seigneur Jésus-Christ et une plus grande capacité de le suivre en vrai disciple. Je vous bénis afin que vous éleviez la voix pour attester, comme je le fais maintenant, que nous sommes engagés dans l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Jésus est le Christ. Cette Église est la sienne. Il la dirige par l'intermédiaire de ses oints. Je vous en témoigne et vous exprime mon amour au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
notre cher Père Céleste, en ce jour de Pâques spécial, nous te remercions pour le don de ton Fils Jésus-Christ, de pour ton amour, et pour la bénédiction d'avoir des prophètes de nos jours. Et nous te prions aujourd'hui pour ta grâce d'avoir les attributs chrétiens pour servir à la manière du Sauveur. Nous te prions d'avoir le courage de suivre notre prophète, de prendre le temps d'aller au temple et d'être davantage comme ton Fils. Nous demandons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Vous venez d'assister à une session de la 188e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.